Alors, je crois que tout le monde a été très heureux de t'écouter. Maintenant, on va passer aux questions. Il va falloir, si vous en avez déjà. Alors, Éléonore, voilà. Éléonore est étudiante en médecine et elle fait de l'anthropologie et de la philosophie à Philanthropos.
J'ai réfléchi à cette question il y a quelques années où j'ai fait un DIU de pédagogie médicale. J'ai fait mon mémoire sur l'enseignement de l'éthique en médecine. Et d'abord, je suis moins sombre que vous parce que je crois que pour la philosophie... Donc ma question n'est... Justement, je n'irai pas forcément dans votre sens. Pour une première raison, c'est que je crois qu'il n'est jamais trop tard pour la philosophie et que quand même la bonne philosophie naît du contact avec la vie. Sauf pour ceux qui réellement veulent être philosophes, mais les médecins sont quand même faits pour ne pas être philosophes. Or, il n'est pas trop tard. Et je pense que les bonnes questions ont, dans ce domaine-là naissent quand on rentre dans ce domaine, quand on rentre finalement à l'hôpital ou dans le soin. Et mon expérience, c'est que des gens qui, à 20 ans, ne s'intéressaient pas du tout à la philosophie, voire qui étaient complètement rétifs et avec lesquels on n'aurait rien fait si on leur avait essayé de bourrer le mou en faisant de la moraline, parce que l'éthique, dans les études de médecine, au stade précoce, ça dégénère énormément en moraline, je suis désolée de le dire, c'est de l'éthique, peut-être pas assez philosophique, mais il y a aussi une réticence des gens qui ont choisi ce métier en se sentant eux-mêmes des scientifiques et non pas des philosophes. Donc, soit c'est du bourrage de crâne, c'est de la moraline, finalement il faut être gentil avec les malades, c'est souvent un peu ça, soit ça n'intéresse personne. Et pourtant, au bout de quelques années, les mêmes qui avaient se choisir ce métier pour ne pas se prendre la tête et qui voulaient simplement agir sur les gens, les mêmes peuvent faire leur révolution copernicienne et évoluer. Donc, je ne suis en fait pas sûre que les études de médecine soient le bon moment pour parler de ça, de façon obligatoire. Ceux qui sont intéressés par ces sujets peuvent quand même faire autre chose. D'abord, ils sont quand même capables de lire, ils peuvent être ouverts, ils rentrent dans les services, mais je ne suis pas sûre qu'un enseignement structuré soit à même de réverser la vapeur, parce que ça va ennuyer l'immense majorité des étudiants, et ceux que ça n'ennuie pas seront déçus par le fait que ce sera soi-même réducteur. Et ce n'est pas trop tard, et dans mon expérience, beaucoup de gens, un peu plus tard, après, une fois qu'ils ont arrêté leurs études. Enfin, il y a un moment pour la science, si vous voulez. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui, au contact de la réalité de leur métier, ont réfléchi un peu secondairement. Donc je ne suis pas du tout sûre qu'il faille... En tout cas, rien n'est perdu. Ceux qui sont taraudés par ces questions jeunes, c'est formidable, il ne faudrait pas les décourager, mais ils sont finalement une minorité. Mais c'est un vieillissement normal et souhaitable de l'homme... Les questions peuvent arriver, parce que c'est un domaine où il y a tellement de problèmes qui se posent qu'au moment où on est pris par ce qu'on fait, on va régulièrement se poser des questions. Donc je ne pense pas, personnellement, que le côté trop scientifique des études de médecine soit à l'origine du problème.
Thank you.
Alors, si par garde-fou, vous entendez des garde-fous institutionnels, parce que vous parlez des comités d'éthique, la réponse est non, 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 non. Les comités d'éthique organisent la recherche et font en sorte qu'il n'y ait pas des dérapages qui condamneraient certaines recherches. Donc les comités d'éthique n'ont pas du tout ce... Ils sont justement garde-fous pour pouvoir continuer. Donc il n'y a pas de garde-fous institutionnels parce que le système est vraiment un système qui pousse, tout le monde étant convaincu que la recherche est forcément bonne, le but c'est d'organiser la recherche pour qu'elle continue et s'amplifie. Donc il y a des garde-fous, mais ils ne sont pas institutionnels, et ces garde-fous...
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de concurrence entre les nations, celui qui va trouver...
Voilà, la technique donne la puissance.
Les Coréens vont le faire, les Coréens vont faire les brevets, donc après c'est nous qui... Voilà, c'est aussi ça.
La technique est à l'origine de la puissance, c'est la thèse notamment d'un penseur français, Jacques Ellul, qui a écrit Le système technicien et qui montre comment la technique est ce qui donne la puissance. Et donc, comme le but c'est la puissance, on ne peut pas se priver de la technique. Et on a toujours l'idée que si on ne court pas assez vite, les autres le feront à notre place. Donc, il n'y a pas de garde-fous institutionnels. Les garde-fous internes, c'est-à-dire les gens qui se rendent compte qui sont en train de dérailler, c'est individuel, mais ce n'est pas à négliger. L'organisation des hôpitaux a tendance à de plus en plus marginaliser la prise en charge individuelle des patients, et donc ça, c'est une chose qui donne encore en plus l'inflation technique, parce que si tout seul dans son coin, on peut se dire, en fait, là, ça ne va pas, j'ai vu ce malade qui... ça ne va plus, j'arrête. Quand je suis au milieu de gens, ce qu'on appelle les RCP, les réunions de consultation multidisciplinaire, au contraire, je suis obligée de rivaliser de propositions techniques, et cette médecine collective est bien plus d'acharnement, si vous voulez, ou d'obstination déraisonnable que la médecine individuelle, où dans le secret de son cœur, on se laisse prendre par un dérapage, une certaine folie de la situation. Et il y a un garde-fou qui ne saurait tarder, c'est triste à dire, mais qui ne saurait tarder, c'est le garde-fou financier. C'est-à-dire que tout ça coûte extrêmement cher, et de plus en plus cher, et le progrès technique a un coût monstrueux, et finalement ce qui est en train de rentrer, ce qui va limiter un certain progrès technique, enfin en tout cas une certaine poussée technique, c'est le prix majeur et la faillite finalement du système, pas de sécurité sociale, mais du système de financement de la santé, qui est gravement menacé dans son équilibre par... ces projets, ce progrès qui ont un coût faramineux. Ça, ce sera un garde-fou, et c'est un garde-fou en fait, mais qui est manié de manière...
mais qui n'est pas éthique, qui est structurel.
Qui est structurel, mais c'est quelque chose, l'effondrement du système est assez court terme, et ça va limiter le délire. Alors c'est triste de le dire, hein, mais... est-ce qu'on est poussé à désirer ce trop-plein du système qui va l'obliger à se réguler de manière absolument pas... de manière involontaire, finalement? C'est une réalité.
Est-ce que ton discours pourrait pas aussi enlever certains garde-fous, puisqu'on se dit, après tout, ces types en chimio, etc., on les fait durer peut-être un peu trop, pourquoi, enfin, tous ces gens-là, pourquoi on ne pourrait pas s'en servir un peu de cobaye, quoi, on teste des trucs, après tout... Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait très bien dire, voilà, puisque de toute façon, on crée une situation un peu iatrogène, on pourrait presque retourner la chose en disant, on pourrait se servir de ça pour continuer nos expérimentations.
Non, mais il y a... l'inconscient du chercheur et le surmoi du chercheur, c'est-à-dire que le chercheur est pris entre ces deux. Donc son surmoi, c'est un surmoi de bénéfices et de grandeur. Son inconscient, c'est effectivement des intérêts autres. Par exemple, le taux de trucage des publications scientifiques est extrêmement élevé. Énorme, 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 énorme. Et pourtant, les gens sont honnêtes, parce qu'ils ne truquent pas pour truquer, ils truquent parce que ça aurait dû marcher, ça, et puis on va avancer comme ça. Et puis, au passage, ma carrière avance comme ça quand même. Donc, vous voyez, il y a un mélange entre l'inconscient et le... Mais le subconscient, non. Le surmoi est d'un bénéfice, c'est-à-dire qu'on se console, réconcilie des difficultés, parce que la pratique de la recherche fondamentale est quand même très aride, voire d'un ennui épouvantable. Hein. La science telle qu'elle est faite, notamment en biologie, pour l'immense majorité des chercheurs, c'est un pesanteur atroce, c'est chiant, c'est à mourir. Donc, à part pour quelques-uns qui ont un peu une créativité scientifique, notamment dans la biologie, il y a très peu de créativité actuellement, et les gens refont en permanence les expériences des autres, qui sont toujours les mêmes, on refait les papiers en modifiant un peu le sel et le poivre, c'est ça, c'est d'un ennui horrible. Et donc, les gens ont bien un aiguillon, et cet aiguillon est double, il y a des passions manipulatrices, qui est l'inconscient, qui est en dessous, le désir de manipulation, quand même une certaine excitation intellectuelle, mais le surmoi qui est d'être vers l'homme idéal, de trouver, d'aider les gens. Et les gens parlent en permanence d'aider leurs prochains. On est vraiment tendu à ça. Donc les gens ne voient pas leurs malades à bout de course comme des cobayes. D'abord, ce serait insupportable. Hein. Personne d'entre nous ne supporterait ça. Donc il faut maintenir cette espèce de fiction. Et c'est très étrange. C'est-à-dire qu'on lutte en permanence. C'est pour ça que j'ai parlé de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la fiction du bienfait d'un homme et de l'homme que j'aime, alors même que mon activité quotidienne est extrêmement chosifiante. C'est en fait très déstructurant. Il faut cette tension entre les deux est très problématique. Et en fait, donc l'activité quotidienne détruit le désir, enfin les motifs pour lesquels on se bat pour les gens. Mais vous remarquez, quand on a fait médecine, on n'a pas fait vétérinaire, ou on n'a pas fait non plus de la biologie fondamentale. Donc c'est bien parce qu'il y a un intérêt pour le phénomène humain, pour l'homme en tant qu'homme, et non pas en tant qu'animal ou en tant que chose. Et en même temps, pour travailler, il faut en permanence s'astreindre à considérer les hommes, j'ai dit un tas moléculaire, de manière... Donc c'est très particulier. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui craquent et qui ne veulent plus de ça. Et qui fuient la recherche après l'avoir pratiquée, parce que c'est en fait assez inconfortable. Et qui préfèrent revenir aux soins quotidiens et de base pour éviter cette tension.
En même temps, je pense à vous connaissez tous la série Dr. House, où justement, on voit quelqu'un qui, du point de vue du rapport spontané, naturel, je disais, du soignant, est insupportable. Qui d'ailleurs n'arrive pas à avoir de bons rapports spontanés naturels, mais qui justement est un tel génie dans la considération du tas moléculaire qu'il arrive à des prouesses que les autres n'atteignent pas, et qu'après ça rejaillit sur lui en tant qu'homme, et finalement, parce qu'il a guéri, on finit par l'admirer.
Oui, il y a un narcissisme. La médecine est un métier formidable parce qu'elle nous met dans une position narcissique extraordinaire. C'est extrêmement gratifiant. Mais il y a deux façons d'avoir une gratification dans ce métier, qui est un des métiers, je pense, les plus gratifiants qui peuvent être. Il y a la gratification purement intellectuelle, c'est celle qu'a, semble-t-il, de Dr. House, et qui, en fait, est assez rare. Sauf que c'est des gens très créatifs, mais parce qu'en fait, c'est pas si difficile que ça. La médecine, c'est hyper excitant quand on l'apprend. Les études sont formidables. Moi, j'ai adoré le côté scientifique. Mais ensuite, une fois qu'on l'a appris, c'est pas si difficile que ça. Même la chirurgie, c'est super, mais en fait, c'est pas si difficile. Et donc, l'excitation intellectuelle et le fait d'avoir trouvé des beaux cas dans Dr. House, les cas sont incroyables. Et donc, il est vraiment très malin. Alors que dans la médecine quotidienne, beaucoup de cas sont pas si difficiles que ça. Le plus souvent, on n'a pas besoin de pétiller sur le plan intellectuel. On n'a pas besoin d'être si intelligent, on y arrive assez bien comme ça. Donc, la stimulation intellectuelle qu'on a quand on est jeune, en général, s'amoindrit quand on vieillit, à moins d'être dans des situations très particulières. Et l'autre gratification, qui est le rapport avec les gens, qui peut être d'ailleurs assez conflictuel, hein, faut pas croire que c'est un monde de bisounours, les malades sont quand même très pénibles, ils sont très exigeants, il y a des moments où on les envoie voler, etc. On dit du mal des malades, etc. Et c'est normal, mais en même temps, il y a une gratification extraordinaire parce qu'on sait combien on est important pour eux. Et dans l'histoire naturelle du médecin, pour beaucoup d'entre nous, on passe de l'un à l'autre de manière assez naturelle, dirais-je. C'est-à-dire que l'excitation intellectuelle est vraiment le fait des jeunes. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, beaucoup d'entre nous perdent ça et échangent contre une excitation de la gratitude humaine. Et c'est pour ça que je disais que je pense que faire de l'éthique ou de l'anthropologie quand on est jeune, c'est sans doute formidable, mais c'est pas indispensable. Beaucoup de gens ne sont pas prêts encore. Ils ont besoin d'avoir rencontré peut-être les limites de leur excitation intellectuelle pour pouvoir s'ouvrir à un autre intérêt. Mais bon, tout le monde n'est pas pareil. Mais je pense que, en tout cas, moi je connais quand même beaucoup d'étudiants en médecine, puis je l'ai été. Il y a une statistique. Et donc je sais que cette évolution est pour beaucoup possible d'une vision scientifique et intellectuelle à une vision plus humaine, si c'est ça qui...
Je crois qu'Aristote pourrait dire à peu près la même chose, hein, on l'avait vu, mais à la limite, un jeune, quand il fait de l'éthique, il a tendance à faire de l'éthique comme une technique. Et que finalement, c'est un problème, c'est un vrai problème. Yann.
Vous avez évoqué un glissement d'un intérêt intellectuel aux gratifications lorsque cet intérêt décline qu'on en reçoit par un contact plus humain avec les malades. Et je vois par mon expérience, j'ai dû être opéré d'une péritonite, c'est-à-dire trois fois opéré. Et j'ai eu une brève interview avec la chirurgienne qui m'a opéré. Mais elle n'était pas trop brève, parce qu'à quel point elle était jolie, attirante et charmante, et ça ne m'a pas échappé. Et alors donc, une fois opéré, j'étais dans le lit, je récupérais, et je m'attendais évidemment à ce qu'elle me rende visite, parce que j'avais un très bon souvenir de certaines interviews avec elle. Et je ne l'ai jamais vue. J'ai vu des équipes de médecins qui passaient, et j'ai vraiment eu l'impression, mais ça ne m'a pas trop affecté parce que j'ai l'habitude, d'être une chose sur des écrans d'ordinateur qui étaient consultés en permanence par les médecins, pour des dosages de médicaments, des choses comme ça. Et ma question, c'est, est-ce que vous ne croyez pas que, dans la logique même du système, cette absence de contact entre un chirurgien, pour prendre cet exemple, et son patient, j'avais envie de lui dire merci. Au-delà de l'envie de le revoir, j'avais vraiment sincèrement envie de lui exprimer ma gratitude pour m'avoir opéré correctement. Non. Mais je ne pouvais pas.
Oui,
c'était des successions de médecins, et celui qui m'a signé un bon sorti, je ne sais pas si on a fait comme ça, en médecine, je transmettrai à la chirurgienne qui m'a opéré toute ma gratitude, et je ne pouvais pas lui expliquer correctement. Donc, en tout cas, les chirurgiens, dont vous êtes, il me semble qu'ils sont pris dans une logique où ils n'auront même pas cette possibilité d'expérimenter un contact humain à travers un sentiment.
Non, ça, c'est pas tout à fait vrai. On peut dire les chirurgiens, ça dépend beaucoup du système et de l'organisation des services. Mais c'est vrai qu'un problème, c'est cette frénésie d'activité. Simplement, le temps étant ce qu'il est, pousse à l'émiettement. Et on est toujours pris par le temps. Et donc la difficulté, les organisations de services sont assez variées et favorisent plutôt telle ou telle partie. Et c'est un effort de s'organiser pour avoir du temps pour les gens en consultation ou en périopératoire. Et cet effort est plus ou moins fait. C'est un choix en fait d'organisation. Et c'est là que le système revient dans la possibilité ou non de découvrir autre chose, d'ailleurs. Et si le système vous contraint en permanence de courir après l'activité, ça m'étonne d'un chirurgien viscéraux, c'est plutôt les chirurgiens cardiaques qui sont épouvantables pour ça, parce qu'ils sont dans la dépendance des cardiologues. Et les cardiologues font toute la partie médicale, et le chirurgien cardiaque, il rame au fond du bloc, il ne voit quasiment jamais les malades. C'est absolument épouvantable la chirurgie cardiaque. Alors que dans d'autres spécialités chirurgicales, il n'y a pas un médecin qui est à côté. L'organisation médecin-chirurgien peut être, de mon point de vue, très défavorable. Et donc, il peut y avoir plus d'équilibre. Et un des problèmes, oui, le système n'organise pas et on peut aussi fuir complètement le rapport humain grâce à ce système. Et à ce moment-là, on ne découvre jamais rien. Et c'est souvent des gens qui font des burn-out, qui sont dans des situations assez difficiles au moment où leur passion intellectuelle ou la passion d'opérer se calme un peu parce qu'on sait faire. À ce moment-là, il n'y a rien. Il y a des effondrements de gens. Je parle là vraiment du point de vue du médecin. Le point de vue du malade, c'est une déception vis-à-vis de ce rapport humain, cette rencontre qui ne s'est pas faite. Mais du point de vue des soignants, c'est très destructeur aussi.
Ouais, je peux y aller. Vous m'intéressez, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Mais j'ai appris un peu, je vous ai demandé une théorie, une piste de solution. Puis je pense depuis tantôt que les interventions m'ont aidé. Alors, justement, dans le domaine de la médecine, ce que j'ai l'impression, en tout cas, ce qui manque, c'est vraiment un amour du patient, comme on vient de dire. C'est pas nécessairement une philosophie, comme on apprend dans une faculté de philosophie, qui va sauver la chose. Mais ce que je pense, c'est plutôt une rencontre du malade, du patient, de quelqu'un qui est faible. Puis, je sais pas si c'est une solution, vous me direz, mais pour que les médecins ne soient pas des gens qui réparent des robots, en fait, qui réparent des humains, il faudrait qu'ils rencontrent ces personnes-là dans leur faiblesse. Alors, justement, de l'aide humanitaire, des choses du genre, pour que les médecins aient une passion tout d'abord de l'homme. C'est une expérience anthropologique que je voudrais pour les médecins, parce que, bon, voyant un peu quelques personnes qui étudient en médecine, dans d'autres systèmes, peu importe, c'est des personnes qui sont très axées sur l'argent. Ils s'en vont là vraiment pour faire la job, comme on dirait, pour faire un travail, tu vas les payer, tu vas être gratifiant exactement. Mais je ne vois pas nécessairement l'amour du patient, puis je veux sauver quelqu'un, puis je veux l'aider. Alors, est-ce que ce ne serait pas une solution? Puis je propose, vous me direz si c'est stupide, mais dans tous les autres domaines, les technosciences, admettons, si je fais de l'optique, ça sert à quoi? Si ça sert à faire, admettons, de la correction visuelle au laser, ou ça sert à justement faire des armes de destruction massive, est-ce qu'il n'y a pas une vision anthropologique comme on l'apprend, mais une vision charnelle de l'anthropologie, aller voir l'homme faible, celui qu'on veut sauver finalement, puis pas avoir un point de vue économique, mais vraiment un point de vue d'aide à l'homme? Est-ce que vous pensez que ça serait une piste de solution possible?
Est-ce que tu leur fais des câlins? Tu les reçois, tu les prends dans tes bras, non, mais, que tu les aimes.
Ça m'intéresse cette question, mais j'ai travaillé il y a quelques années dans un ouvrage collectif qui s'appelait Questions d'amour au pluriel, qui était de l'amour dans la relation soignante. Et quant à moi, mon texte était de savoir où était l'amour dans la relation médicale, si elle était ou si elle devait être au début ou à la fin. Et moi, je ne pense pas que l'amour soit au début. Dans le système tel qu'il est, la médecine d'abord un intérêt intellectuel. Alors vous dites économique, c'est un intérêt intellectuel, c'est passionnant. Moi je ne le ressentais pas quand à 18 ans j'ai essayé de faire une médecine d'amour pour les malades. D'abord je les trouvais assez dégoûtants, ils sont très emmerdants, ils se gênent. Et je ne ressentais pas du tout ça. Je ressentais un intérêt intellectuel pour une discipline fascinante. Mais heureusement dans la réalité de mes études, rapidement j'ai été à l'hôpital et j'ai été mise en rapport avec des gens réels. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est le fait de faire vis-à-vis de ces gens m'a fait ressentir de l'amour pour eux. Car je crois que l'amour n'est pas à l'origine des soins, mais l'amour vient du soin. Le fait de s'occuper de quelqu'un et d'avoir aussi quelque chose à pouvoir lui proposer, d'être au quotidien avec les gens, les rend intéressants par une espèce de gratification, en fait, sans doute. Donc mon expérience à moi, c'est que l'amour est peut-être dans certains cas, il ne faut pas généraliser, peut-être que pour certains, ils viennent de l'amour pour aller vers la médecine, mais pour beaucoup, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'amour au départ que l'amour, ce n'est peut-être pas l'amour, en tout cas un intérêt, une gratification, un plaisir d'être avec l'autre, naît plutôt de la rencontre. Et un problème dans l'organisation moderne, c'est donc effectivement le temps. Le problème, c'est de pouvoir avoir cette rencontre. Et là, il y a un problème d'organisation des soins. Et dans un système où on veut nous pressurer en permanence pour notre temps, et on court en permanence, c'est-à-dire que par exemple en consultation, on va à un malade tous les 5 minutes, parce que on en a plein d'autres. Et puis d'ailleurs, c'est pas seulement parce que l'hôpital veut nous pressurer, c'est parce que la secrétaire, elle donne des rendez-vous à 3 mois. Et les malades, ils ne peuvent pas attendre 3 mois, donc il faut en voir plus pour les voir plus vite, pour avoir des urgences, ceux qui ont besoin. Donc ce problème du temps menace en quelque sorte la rencontre. Parce que moi, je crois que c'est de la rencontre et du fait de faire, de prendre soin, que naît cette possibilité, qui n'est peut-être pas systématique et qui ne marche d'ailleurs pas avec tout le monde, parce qu'il y a des malades avec lesquels on ne s'entend pas. Il y en a avec lesquels on ne s'entend pas. D'ailleurs, les gens peuvent demander des deuxièmes avis, ils peuvent changer. Il y en a aussi beaucoup avec lesquels il se passe quelque chose, alors même que simplement parce qu'on s'en est occupé. D'ailleurs, les gens graves, les gens avec qui on a eu des complications, et qui sont restés longtemps, et on était mal à l'aise. Et parfois, c'est ceux qui vous remercient le plus, ceux dont on se souvient le plus magnifiquement, avec lesquels il s'est passé des choses étonnantes. Donc, il se passe quelque chose dans la rencontre médicale. Encore faut-il que le système, l'organisation, n'empêche pas qu'il se passe quelque chose. Et là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Mais je ne pense pas que ce soit au départ, en sélectionnant des gars super, des petits saints qui sont là à penser aux soins palliatifs, etc. Je pense que c'est en rendant possible, en ménageant du temps, en mettant sûrement vite les gens en contact des malades. Et d'ailleurs, ça, c'est un mouvement où on met les étudiants le plus vite possible à l'hôpital. Et je crois que c'est très bien qu'ils rentrent le plus vite possible. C'est à l'hôpital que ça se fait, ça pourrait être au cabinet, mais à l'hôpital. Et qu'ils aient le plus possible de contact. Et là, il va se passer quelque chose, en fait, parce qu'effectivement, on est saisi, on est requis par la réalité humaine qu'on rencontre à ce moment-là. Et ce n'est pas de la théorie. Et c'est pour ça que je suis assez dubitative, encore une fois, sur les cours d'éthique. Bien sûr qu'il en faut plutôt des débriefings, sans doute, au stade précoce. Et parce que pour beaucoup d'étudiants, ce n'est pas très efficace, alors que la réalité de ce qu'ils vivent dans la rencontre singulière avec les gens est très fort et les fait évoluer normalement. Alors, ensuite, ils sont pressés par plein d'autres trucs. Il y a des conflits. un conflit d'intérêts, quoi, un conflit entre le conflit du temps, le bloc qui vous entraîne, l'organisation générale. Et là, l'institution a quelque chose à faire. Il faut, plus elle nous pressure, on est pressurable et on se laisse pressurer. Ça, c'est très mal.
Mais il n'y a pas que l'institution et le médecin qui sont en cause dans cette histoire. Il y a aussi la demande du patient qui va vers le médecin en disant bah, « Guérissez-moi, moi, j'en ai rien à foutre de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez ?» Pas là pour devenir votre copain. Hein.
Mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Les malades, ont... les gens sont plutôt.
Il n'y a pas aussi une manière de consommer le.
Oui, mais leur consommation. Oui, mais ce qui est. À part des gens qui sont médecins eux-mêmes et qui connaissent, les gens croient consommer de la technique alors qu'en fait, ils s'attachent à des signes extérieurs extrêmement humains. Par exemple, dans les avis multiples. Quand vous avez une maladie grave, mais pas en urgence, on vous propose quelque chose, vous dites, oula, il faut que je demande un deuxième avis. Et vous allez voir éventuellement plusieurs spécialistes. Et à la fin, vous avez plein d'avis qui éventuellement sont assez divergents, ça devient très difficile, et vous voyez comment les gens choisissent in fine celui qui va les traiter. Et c'est hallucinant du point de vue du professionnel, y compris quand c'est des gens intellectuels. Par exemple, les profs, ce sont les pires, les profs qui sont prétendument capables, après tout, de faire de la littérature, de faire de la biblio, qui sont scientifiques au sens... les enseignants sont les pires. Ceux qui choisissent le plus mal, et en général, ils choisissent sur des critères personnels. C'est très étrange, ce qui emporte le choix du thérapeute, surtout que nous, on connaît bien. On vous demande, oui, ils me disent, je suis venu, j'ai déjà vu plusieurs chirurgiens. Mais, oui, qui avez-vous vu et qu'est-ce qu'on vous a proposé? Et vous voyez, à Paris, c'est facile, hein, parce qu'on est nombreux, donc c'est facile pour les gens de faire le tour. Il y a des gens qui ne font pas le tour, hein, qui s'arrêtent au premier, hein. Le plus jeune, ils aiment les jeunes, ce qui est de la folie, parce qu'on est bien meilleur en vieillissant dans notre métier. Et les jeunes, actuellement, par exemple, sont sympathiques et ont une espèce de gentillesse éventuellement de jeunes. Et beaucoup de malades acceptent d'être traités par des jeunes chefs de clinique qui ne sont pas très compétents. Donc non, ils croient demander de la technique, mais en fait, ce qui les meut, et en général le facteur humain, la sympathie, celui qui a bien parlé, qui a l'air de... C'est très, très, très subjectif. Justement, on est dans une société où la science est l'idole, et donc une société qui se croit objective et objectivante et qui nous demande quelque chose d'objectif, mais où les gens réagissent de façon très subjective. Et c'est un domaine qui reste extrêmement subjectif. Mais ça donne du charme à notre rencontre. Mais en fait, c'est amusant. Bon, vous avez dit énormément de choses, hein, un principe de réalité, la monstruosité et la médecine, je suis très très sensible. Oui, vous avez raison, mais il ne faut pas voir ça comme un complot, si vous voulez. La théorie du complot est assez ridicule, c'est plutôt l'ensemble de la société qui voit la médecine comme une technoscience et demande ça. Mais elle est très ambivalente, elle demande d'autres choses, donc elle demande des choses contraires. Alors heureusement, on est pas mal capable d'être schizophrène. J'ai parlé tout à l'heure de la schizophrénie, et vous avez eu l'impression que je regrettais cette schizophrénie. Mais en fait, on est capable de passer de l'un à l'autre, de sortir du laboratoire ou du bloc opératoire et de recomposer la... Mais jusqu'à un certain point. Alors, progressivement, la barque se charge. elle se charge, j'ai dit, dans le temps, le problème de la répartition temporelle, de le temps qu'on passe avec les gens et où on rencontre le principe de réalité, ce type qui est là, qui me parle, que je touche, à qui j'ai serré la main, que je regarde de façon lévinassienne. Donc il y a un principe de réalité qui nous ramène à, j'allais dire, l'ancienne façon d'appréhender les êtres ou la façon normale, spontanée, naturelle. Et puis à côté, ce que je fais qui est très différent. Et jusqu'à présent, j'arrive assez bien à faire le va-et-vient, peut-être jusqu'à un certain point. Et c'est plutôt ça, que je ne sais pas où est ce point dialectique. Et
ce qu'il disait, c'était justement que le problème ne serait pas de la technoscience, puisqu'elle est toujours, elle a toujours été technoscience objectivement, qui a toujours de toute façon un rapport au patient d'une certaine façon, mais que le problème venait plus de l'institution que du développement de la technoscience.
Oui, mais l'institution, elle organise, par exemple, vous parlez de l'evidence-based medicine, c'est une technoscience comme une autre, c'est une façon de formaliser de manière scientifique les choses. Oui. Oui. Mais ça, c'est l'organisation nécessaire. La technoscience se meut là-dedans. C'est pas hors de la technoscience. C'est la façon de fonctionner de la technique, les protocoles. C'est une autre technique. La technique, c'est pas seulement quelque chose de mécanique. C'est la technique de pensée, les techniques de gestion, la gestion du personnel. C'est des techniques de façon. Donc, c'est la façon dans laquelle. S'il y a tant de protocoles, c'est parce que la technoscience est à l'aise et a besoin des protocoles. Donc c'est une façon technique, de même la gestion du personnel, vous voyez que ça s'appelle une technique. Donc effectivement, ça prolifère parce que c'est le milieu favorable pour la technoscience. Et donc on est obligé de maintenir un équilibre entre les deux et on se laisse éventuellement emporter quand la barque se charge beaucoup.
On va prendre encore une, deux, là c'est beaucoup. Moi j'ai en plus une question, moi. Non, je vais poser ma question d'abord. C'est un privilège quand vous serez directeur. Non, mais c'est une question importante pour aussi ouvrir la chose. Il y a une chose dont tu n'as pas parlé, on peut comprendre d'ailleurs. Lorsque Anders évoque ce point dialectique où il faut passer du oui à la technique au non à la technique, est-ce qu'il n'est pas en rapport avec le point où il faut passer donc parallèlement du non à la mort ou oui à la mort? Parce qu'à aucun moment tu n'as évoqué justement cette question-là, c'est-à-dire il faut mourir et qu'il y a le passage d'un pouvoir mourir à une sorte de devoir mourir. Et donc cette question de l'acceptation de la mort qui serait vraiment, alors là, pour le coup, le garde-fou, ça c'est assez évident, et que cette acceptation de la mort, d'une certaine façon, ne peut se faire que dans un cadre qui déborde largement la médecine, qui est forcément un cadre qui invoque une dimension, je dirais, religieuse, une dimension... Alors, comment est-ce que tu situerais cette question de l'acceptation de la mort ?
Oui, bien sûr, c'est le point fascinant où la médecine est effectivement en prise avec l'ensemble de la société, avec ce que la médecine croit devoir attendre de la société. Et donc le problème est ce que les médecins qui font partie de la société croient ressentir comme demande du corps social. Comme eux-mêmes font partie du corps social, probablement ont-ils les mêmes désirs et les mêmes idées et les mêmes tendances et aussi les mêmes névroses et les mêmes impossibilités, les mêmes points de blocage. Donc effectivement, le point de la mort est le point essentiel, en fait le point d'accepter de la condition humaine, la réflexion sur la condition humaine. Et la médecine, mon maître Folchette disait toujours que la médecine dérapait au moment où, après avoir essayé de remédier à des situations, elle s'était mise à vouloir changer une condition. Donc le rapport à la condition humaine mortelle, évidemment, dans notre société, c'est un impensé. La mort est un impensé absolu. C'est la chose dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas, qu'on se contente de repousser. Et la médecine s'intéresse énormément à ça. Et dans la médecine, en plus, c'est la mort de l'autre. Il y a autre chose, c'est qu'une chose est de penser ma mort, et autre chose est de penser la mort de l'autre, et la mort de l'autre qui m'est confiée. Donc, pour la médecine, il y a cette difficulté double. Penser ma mort, ça peut être l'occasion d'un approfondissement, d'un épanouissement, évidemment, très profond de mon rapport à ma condition humaine. Penser la mort de l'autre et la mort de l'autre qui m'est confiée, c'est doublement difficile. Et donc la médecine est forcément, j'allais dire, en retard sur la société. Si la société est capable de mettre en ordre un rapport plus apaisé à la mort et donc à la condition humaine, probablement au travers effectivement d'une spiritualité ou d'une religion, car c'est bien de ça qu'il s'agit, la médecine sera forcément un petit peu en retard. Parce que elle, il ne se contente pas de dire « j'accepte ma mort », mais c'est « j'accepte que l'autre qui m'est confié meure alors que justement il est venu pour ne pas mourir ». Donc c'est forcé que la médecine pousse encore plus dans ce sens.
Il y a justement un autre aspect de la... Illich a beaucoup parlé aussi, pour le déplorer, parce qu'il l'a vécu quand il était au, je crois que c'était au Mexique, la question du passage des pompes funèbres, enfin l'invention des pompes funèbres.
Ils sont de moins en moins pompes.
Et le système entrepreneurial, en fait, des pompes funèbres, parce qu'autrefois, c'était la famille, ou la famille élargie, qui s'occupait du mort, des soins accordés aux morts, au corps mort. Quand vous pensez que si votre enfant ou votre femme meurt, c'est pas vous qui avez en charge le corps. On ne sait plus en prendre soin, on ne sait plus donner des soins funéraires, on ne sait plus faire une toilette mortuaire, alors qu'autrefois on le savait, et ça a été délégué complètement à des anonymes, des entreprises qui vont gérer, qui vont manipuler ce corps mort, ouais, qui est celui de votre proche. Vous ne le toucherez plus, lui il va manipuler ce corps mort. Et donc ça, pour Illich, c'était un vrai scandale. Et il rappelait, Illich, que dans la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola imposait à tous les novices, avant de faire leur vœu, de faire la toilette des morts. Que c'était un devoir. Et je pense que sur la question de l'acceptation de la mort et du rapport à la mort et sa disparition, vient aussi ce fait qui est quand même ahurissant. C'est-à-dire que le corps des personnes qu'on a aimées soit manipulé, alors pour, avec des thanatopracteurs qui vont leur faire des jolis sourires, etc., qui vont leur donner un air apaisé. Mais il y a quelque chose qui est complètement aberrant et qui fait partie du développement économique, hein, selon Illich, c'est-à-dire le fait que ce qu'on pouvait faire soi-même, désormais, doit l'acheter. Et c'est ça qui est absolument dramatique.
Oui, l'emballement est difficile. En tout cas, la solution ne peut pas venir directement de la médecine. C'est ça que je voulais dire. Dans l'histoire de l'acceptation de la mort, vous ne pouvez pas demander que ce soit la médecine qui fasse le travail en premier, surtout que c'est un travail qui n'est pas pour elle. C'est doublement un travail difficile, puisque finalement, il faudrait faire le travail d'accepter la mort de l'autre. Si l'autre lui-même ne l'a pas accepté, ça paraît doublement difficile et finalement inhumain de demander que ce soit d'abord la médecine qui fasse ce travail. Donc le fait que la mort, la conscience de la mort soit expulsée de la société, eh bien en médecine il y a la conscience de la mort doublement, mais c'est une lutte, elle est forcément seconde, la lutte contre la mort est forcément dépassé, extrême, hyperbolique en médecine. Tant que la société n'aura pas fait ce travail, mais je dis tant que, comme si elle pouvait la faire, peut-être qu'elle ne peut pas, j'ai pas d'idée, mais si la société ne fait pas ce travail, il ne faut pas demander à la médecine de la faire dans son coin en premier, c'est impossible. C'est bien de tendre l'autre joue, mais quand c'est l'autre joue des autres, de ceux que vous aimez, des vôtres, ceux qui vous sont confiés, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai dit, de manière un peu tristoune, que le garde-fou principal, c'est le manque d'argent. C'est vraiment, là, un retour sur terre. La société étant incapable de faire ce travail philosophique ou spirituel, eh bien, elle va simplement manquer d'argent, et là, elle refera le travail, parce que, comme faisaient les Anglais à un certain temps, à un certain âge, on ne dialyse plus, parce qu'on n'a pas d'argent. Mais c'est pas si malsain que ça. Finalement, c'est pas si malsain que ça. En revanche, c'est assez triste. Ça, c'est témoin d'une incapacité de se prendre en main, en charge soi-même, mais c'est efficace.
On va prendre alors encore une. Alors, Pierre-Hussain, tu as déjà parlé. S'il y a quelqu'un d'autre, d'abord, je ne veux pas. Alors, oui, Joseph.
Prononcer sur ce qui est qui est morale, elle produit, la conscience produit. Puis c'est ce qui mène justement à cette idée que le progrès ne peut être bon parce que la science a été placée au sommet de la société. Mais une solution, ça ne serait pas justement d'intégrer une visée à la science qui est une visée morale au lieu de la laisser produire, qui aussi ça mène à un certain contre-productivisme, comme vous avez dit. Plus on produit, à un moment donné, ça se revient contre nous avec ce problème dialectique légal. Donc, je pense que ce serait pas de mettre une visée à la science qui est. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas visée, mais d'en poser une concrètement au lieu de la laisser produire.
Mais c'est juste une remarque, mais la science, elle est méthodologiquement neutre moralement. C'est-à-dire, c'est dans sa méthode même. On ne peut pas lui donner une visée morale. Elle est méthodologiquement neutre. C'est, en revanche, la question de la visée morale du scientifique, ça, c'est autre chose. Il faut bien voir hein, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la science elle-même qui a cette visée morale.
Puis je remarquerai une chose amusante. Vous savez que solution, c'est vraiment une façon de penser technique. Un problème, une solution. Donc, en fait, on est quand même extrêmement formaté à cause de cette succès, hein, parce que un problème, une solution, c'est une façon technique de voir les problèmes. Donc, on aborde dans notre société, je vais dire tout, peut-être pas, mais tellement de choses sous le prisme de la technique qu'il ne faut pas s'étonner que, dans un domaine aussi important que la science, le problème-solution, donc technique, soit comme ça. Donc, vous voyez, vous-même, vous cherchez une solution, vous rentrez dans la technique, ce sera une solution technique de... Vous voulez, en fait, on est tellement habitué à trouver des solutions techniques, parce que parler de solution, c'est déjà une modalité technique de réponse, qu'on va envisager des techniques pour limiter la technique. Et les effets secondaires de la technique. Moi, oui, mais on peut. Moi, je sais pas. Je pense que ça va aller jusqu'à son terme. En fait, je pense que rien ne marche. Ça va s'effondrer simplement. Et cet effondrement renaîtra. Simplement, il faudrait, pour vivre au quotidien, limiter un petit peu. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ça reste un métier formidable parce que, je dis, ça va jusqu'au bout et puis ça s'effondre bas. Ça, c'est une vision de l'ensemble du système. Mais au sein du système, chacun individuellement peut faire cette expérience. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au bout de l'ennui de la science et revenir, grâce à notre schizophrénie, notre capacité à rebondir, après avoir été au maximum de la science, s'en sentir mal, et à ce moment-là, revenir vers les hommes. Il y a une espèce de va-et-vient possible. Je pense qu'il y aura un va-et-vient possible dans l'histoire, c'est-à-dire que cette société extrêmement technoscientifique se brisera sur une impossibilité matérielle, financière, mais pas seulement, de l'épuisement des ressources en un sens, et reviendra vers autre chose. Mais individuellement, au sein de l'exercice de la médecine, on peut aller dans un va-et-vient, et des moments où on est beaucoup plus dans la science et la technique sont quand même des choses extraordinaires. Il y a une manipulation, une jouissance de la manipulation, et intellectuellement, c'est intéressant et agréable, hein. C'est quand même quelque chose de très excitant. Eh bien, on peut revenir à certains moments vers le rapport humain, et on n'est pas... On peut faire ce va-et-vient. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait de solution, en fait, parce que la solution, c'est déjà une visée technique, mais l'histoire avance, c'est-à-dire qu'il se passe bien des choses. Et il ne faut pas non plus demander tout et son contraire. À un moment, effectivement, il faut renoncer à certaines choses. Si des choses sont plus importantes, eh bien, il faut accepter de renoncer à certaines choses, accepter de soigner certaines choses, soit au niveau social, soit au niveau individuel, car au niveau individuel, on peut faire des choses. Et vous savez, sur l'obstination déraisonnable, le public a l'impression que c'est les médecins qui font de l'obstination déraisonnable. Et les médecins sont persuadés que c'est le public, c'est les maths qui leur demandent. Moi, je suis persuadé que les maths demandent en permanence tout. C'est eux qui demandent tout le temps. Donc, si vous parlez d'obstination déraisonnable, je dis, mais c'est les familles qui veulent jamais arrêter. Jamais arrêter. Nous, on n'arrête pas de leur dire, mais là, c'est trop. Et eux ont l'impression que c'est nous qui poussons. Vous voyez, chacun à son espèce de raison, et donc il est en fait possible de faire un va-et-vient de l'un à l'autre. Ce n'est pas une solution à proprement parler. Moi, j'ai peur que de solution, il n'y en ait guère, au point où on en est. Il y a une vision assez historique, c'est-à-dire qu'on est emporté quand même par un mainstream, et on va où on va aller. Mais individuellement, au milieu de ce flux, on peut se mettre faire un pas de côté, et on peut peut-être profiter de différents aspects qui sont contradictoires mais pas réellement impossibles Alors ça ne se fait pas en même temps, mais le temps est tel qu'on peut passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas une solution. Je n'ai pas de solution.
Il faut dire comme Achille, devant son ennemi qui va tuer, il dit « Patrocle est mort aussi, qui était meilleur que toi. » Vous voyez, c'est de dire... Le Christ est mort à 33 ans. Et nous, on pourrait avoir, au nom de la compassion, une sorte d'obstination déraisonnable qui fait qu'on refuse absolument ces choses-là. On va s'arrêter ici. La solution ne viendra pas de la médecine elle-même, comme vous le voyez. Ça veut dire que vous avez aussi une tâche qui est la tâche de faire accepter la condition humaine. Et il n'y a pas de raison de l'accepter simplement à partir d'elle-même. Nous pouvons l'accepter parce que Dieu lui-même a voulu prendre cette condition humaine, vivre et mourir. Et je crois que voilà, il y a une tâche aussi d'évangélisation de la société pour pouvoir justement entrer à nouveau dans cette acceptation de la condition humaine.